À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler de la situation. Ils cherchent en ce moment à réglementer leur installation. On verra leur réaction avec donc les représentants locaux. Et puis, on vous donnera aussi quelques bons plans sortis, des recommandations musicales. Mais d'abord, on va parler recherche en compagnie d'Élie Gautreau et Frédéric Douet. Ils sont tous les deux ingénieurs au CNRS au sein de l'Institut P' de l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là pour nous parler d'une innovation que vous avez créée, un Dragon 3, il s'appelle. C'est un drone sous-marin capable de nager comme un serpent dans l'eau. Alors déjà, parlez-nous un petit peu du parcours qui précède l'arrivée à ce drone. Comment vous êtes arrivé à réfléchir à cette question-là du déplacement et sous-marin?
Eh bien, l'origine de ce robot serpent, il vient d'une ANR. C'est un projet de recherche, donc financé par l'Agence nationale de la recherche. Un consortium qui avait pour but d'étudier la nage des serpents. Donc c'est une question issue des biologistes. Et l'idée, c'est de développer un robot serpent en tant qu'outil pour les biologistes pour pouvoir comprendre comment les serpents nageaient, les serpents vivants, et donc de modifier différents paramètres sur ce robot, de faire varier les amplitudes, les fréquences, et derrière de comprendre cette nage et de répondre par une boucle de rétroaction à des questions de biologistes. Nous, derrière, avec Fred, quand on a développé ce robot, on l'a fait fonctionner. On avait 8 versions. On l'a fait fonctionner dans le bassin des carènes de l'Institut P'. Et puis, on s'est dit, mais ça marche super bien. Il faut qu'on trouve une application. Il faut qu'on essaye de le sortir de la recherche et qu'on trouve des applications en industrie. Donc, on a eu cette démarche là, depuis un an à peu près pour trouver des applications. On est sorti du laboratoire. On est allé poser des questions. Comment on pourrait l'appliquer? Et puis, de fil en aiguille, on s'est intéressé à la propulsion bio-inspirée, à développer ce propulseur bio-inspiré à partir de ce robot serpent. Et puis, en fait, on peut propulser des bateaux, on peut faire propulser des drones. Et voilà, maintenant, on est en train de développer ça.
Et alors, pourquoi les biologistes s'intéressaient à ce déplacement, particulièrement du serpent? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nage du serpent?
Alors... Eh bien, si on se place du point de vue d'un biologiste, si on veut étudier la nage d'un serpent, finalement, un serpent, ce n'est pas un animal qui est domestique. Donc, on le met dans l'eau, on lui demande de nager, il ne va pas forcément nager. Donc, du coup, déjà, c'était assez complexe de la comprendre. Pourquoi les biologistes voulaient s'intéresser à cette nage-là aussi? Parce qu'elle est extrêmement efficace sur le plan énergétique. Il y a des serpents qui peuvent nager pendant des jours, sur plusieurs milliers de kilomètres. Mais on ne sait pas pourquoi exactement. Et donc, cette envie de comprendre pourquoi c'était si efficace, ça a mené à développer ce robot-là.
Et donc, ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette nage du serpent et comment elle peut être reproduite?
Maintenant, ça fait à peu près... Donc, la thèse a duré 3 ans, plus à peu près un an et demi de développement complémentaire. Maintenant, on est passé du côté prototype de scientifique de laboratoire qui était une preuve de concept pour les biologistes à ce qui va être maintenant une application très concrète. Donc, comme Élie le disait, on a été interrogé un petit peu les acteurs sur le marché, voir quels étaient les besoins, et on s'est rendu compte que le côté énergétique était la grosse question du moment. Tout ce qui est propulsion classique à l'aide d'hélices, en fait, consomme énormément. Et ils essayent de réduire la consommation énergétique avec une alternative, mais ils cherchent encore. Et donc nous, en étudiant ce robot en mode maintenant propulseur, on peut mesurer la consommation, on peut voir s'il est vraiment efficace ou pas. Et donc ce sera vraiment la grosse valeur ajoutée pour les futurs propulseurs, d'avoir une consommation très basse. On a aussi une deuxième valeur ajoutée qui est que, contrairement aux hélices, ça ne brasse pas les fonds marins, ce n'est pas destructeur. Donc ça a un impact aussi sur la faune et la flore marine, qui est beaucoup plus léger. Et en plus, ça ne fait pas de bruit.
C'est en fait comment on passe d'une recherche fondamentale à une recherche appliquée. C'est un peu ça, vous avez fait la transition.
C'est ça, c'est que le serpent, c'était de la science pure. Et maintenant, on passe à la science appliquée et à un transfert de techno de la boîte de recherche à l'industrie dans le monde appliqué. Quoi.
Et alors, est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés, des obstacles quand il faut passer à ce côté appliqué ? Ou même à reproduire cette nage du serpent déjà au départ ?
Oui, en fait, du point de vue du serpent, d'un point de vue purement science, il y avait les contraintes biologiques du serpent. Il fallait que ça ressemble à un serpent, que ça nage comme un serpent, que ça ait une tête de serpent. Mais si vous mettez un serpent derrière un bateau, c'est pas lui qui va pousser le bateau. Donc le premier challenge, ça a été de passer justement de ces contraintes biologiques aux contraintes purement techniques d'un bateau qui va faire 2 tonnes ou 200 kilos par rapport à un serpent qui fait que quelques kilos. Donc il a fallu vraiment adapter le fonctionnement purement mécanique, purement électromécanique du robot serpent à la base pour que ça puisse propulser quelque chose derrière. Et là, c'était un petit peu un saut dans l'inconnu parce qu'on ne savait pas si le système de base allait suffire. On a eu beaucoup, beaucoup de changements. Il a fallu prendre du temps pour tester pas mal de choses. Mais on garde l'esprit. Ce qu'on a découvert avec la nage du serpent, on l'applique toujours, en fait. D'une autre façon, mais on l'applique toujours.
Et alors, quelles sont les applications potentielles ? Qui a répondu à vos interrogations au niveau des industriels ?
Alors, les applications potentielles, elles sont assez nombreuses. On en a découvert et on en découvre toujours. Typiquement, ça va être l'inspection dans les zones portuaires, sur des berges qui vont être immergées avec le flux des marées. On va avoir une destruction petit à petit ou une fissuration des berges. Et sous l'eau, c'est pas forcément évident à aller observer. Donc un drone est plutôt intéressant pour ça. Et quand en plus il y a de la vase en dessous et qu'on y va avec des hélices, en fait les hélices brassent la vase. Donc là il y a un problème. Et donc on s'est dit, peut-être qu'un serpent qui ne brasse rien, lui va pouvoir y aller et on va pouvoir observer ces berges-là. Après, on a énormément d'autres applications. Ça va être dans l'inspection des tuyauteries pour tout ce qui est pétrole. Gaz, ça va être aussi de l'eau, parce que les réseaux d'eau sont aussi très vieillissants. Et donc, plutôt que détruire toute une rue, et ça coûte, même d'un point de vue environnemental, ça coûte de détruire une rue, d'abord, essayer d'étudier comment les tuyaux sont faits, s'ils sont rouillés ou pas, identifier les fuites, et derrière, creuser uniquement à l'endroit où il va falloir réparer.
Et donc, pas mal d'applications à venir. Quelles sont les prochaines étapes ? Déposer un brevet Vous en êtes où ?
Donc là, on est vraiment à cheval entre le public et potentiellement une création d'entreprise. Donc on a un brevet qui va être déposé dans le courant de l'année. On est en train de peaufiner ça. Il sera déposé sûr avant la fin d'année. Et on est un petit peu pris de court parce qu'on attend une réponse à des appels à projets qui seront cet été. Donc pour l'instant, c'est un peu quitte ou double. Soit les projets passent et donc dès septembre, on repart sur à peu près un an et demi pour vraiment monter en gamme, en TRL, comme on dit, pour passer d'un prototype à quelque chose de proche de industrialisable. Ça, on saura ça que cet été. Mais le but, c'est de toute façon de continuer dans tous les cas et d'obtenir... un démonstrateur. On va aller au Grand Pavois en fin d'année. On aimerait pouvoir montrer quelque chose. Le but, c'est maintenant de montrer quelque chose. Ouais. Donc, une fois que les brevets déposés, on pourra montrer.
Et comment vous vous êtes entouré pour faire évoluer ce projet, au départ, qui était juste effectivement la nage du serpent. Comment les différentes disciplines, peut-être scientifiques, ont pu vous aider ?
Si on part d'abord de la recherche, on était entouré d'un consortium avec des biologistes, des physiciens, nous on était les roboticiens, et puis des mathématiciens. Quand on a développé ce robot, on était aussi accompagné au sein du labo de personnes qui étaient plutôt techniques. On a un atelier pour faire la fabrication, on a nos imprimantes 3D, donc sur ce point de vue-là, on développe tout au labo. Et puis petit à petit, pour la partie création d'entreprise, on est aussi accompagné par l'incubateur Néologie Technopole, l'incubateur de Grand Poitiers. On est aussi accompagné par le SPVR, le service partenariat valorisation de la recherche de l'Université de Poitiers. Et puis Fred est du côté CNRS, donc on a aussi le CNRS Innovation qui nous suit pour essayer de développer cette techno. Donc on a beaucoup d'acteurs finalement qui commencent à s'agglomérer autour de ce projet. Et plus il grossit, plus on aura ces acteurs-là.
Et alors cette bio-inspiration, parce que c'est ça hein, le projet au départ, est-ce que effectivement ça ouvre des perspectives pour l'avenir, pour vous le disiez, ces questions énergétiques, ça peut répondre peut-être à pas mal de questionnements pour le développement industriel, notamment dans le milieu nautique.
Oui, l'idée pour nous, ça va être de montrer qu'on peut faire mieux que ce qui existe déjà, c'est-à-dire les hélices. On espère pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. Ce n'est pas encore prouvé. On va essayer de le prouver au cours des mois qui arrivent. Et puis, comme ça, dans l'année, on pourra, comme disait Fred, on pourra avoir un démonstrateur. L'enjeu pour les industriels, c'est forcément si on arrive à dépasser 20%, d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique, c'est super, c'est un bond en avant et nous, c'est notre objectif.
20%, c'est l'objectif d'économie, on va dire, énergétique par rapport à la propulsion actuelle. Et alors, le calendrier, là, vous disiez, si ça marche cet été, ça va accélérer. Sinon, c'est quoi un peu l'idée pour qu'il y ait un premier projet concret qui sorte?
Si tout se passe bien et qu'on a nos appels à projet, on repart pour à peu près un an et demi de développement. Si ça ne passe pas, la question se posera d'anticiper peut-être la création d'entreprise, qui est quand même une grosse prise de risque, ce qui n'est pas l'idéal. Donc ça, c'est une question encore très très ouverte. Idéalement, on voudrait pouvoir quand même continuer à développer à peu près pendant un an et demi. Et là, par contre, si tout se passe bien, on pourrait créer l'entreprise après. Parce qu'on a des demandes, on sait qu'il y a des besoins, qu'il y a des personnes attendent. On a eu des contacts qui disent « dès que vous êtes prêts, nous on vous suit ». Donc c'est qu'une question de temps si tout se passe bien.
Donc plus que quelques mois pour que Dragon 3 sorte et serve effectivement au niveau industriel. Merci beaucoup Élie Gautreau et Frédéric Douy d'être venus nous présenter ce projet Dragon 3, donc ce drone sous-marin qui peut nager donc, comme un serpent et donc qui va pouvoir avoir des applications dans pas mal de domaines. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
On continue en musique avec Léo SVR et ce titre « Full sang froid » avec Edge.
Personne dans la city en voit plus qu'un monstre. Comme Ousmane sur la droite, j'peux te faire avec le gauche ou le droit. J'performe, on dirait Vandamme dans le grand tournoi. Faut plus de gold sur mes doigts et des racks sans surpoids. Chaud, soleil, j'pas réveil, j'moque sur le toit. J'pense bénin dans mes rêves, pas RSA. Eh bien, fuck, charge, dois garder full sang froid. Pour un coup, tout le temps froid.
Promenade de santé, ça va très bien la course. Les larmes, elles sont là, on les garde pour la douche. Pour les uns de la ville, je suis un zin de la brousse. C'est démarqué, faut allonger la touche. Et c'est pas une avance, c'est un virement du cruise qui l'a touché. Big up à Johnny pour la prod, on l'a douché. Le flow, tu te demandes à combien on l'a touché. J'emmène en vacances, la carte a chauffé, y'a pas de bébé. Y'a pas. On s'amuse à l'hôtel, après ça, je vais dormir comme un bébé. J'ai toujours un nez sur le dos de mes broskis. Je mets la haut clé comme si je vais au ski. Toujours fuck PPDA et Bill Cosby.
Personne dans la city en voit plus que moi. Comme Ousmane sur la droite, j'peux te faire avec le gauche ou le droit. J'performe, on dirait Vandamme dans le grand tournoi. Faut plus de gold sur mes doigts et des racks sans surpoids. Chaud, soleil, j'pas réveil, j'moque sur le toit. J'pense bénin dans mes rêves, pas RSA. Eh bien, fuck, RN, charge, Beretta. J'dois garder full sang froid. Pour un coup, tout le temps froid.
Hello. Gotaga, je carry le lobby. J'passe tout l'été au studio à Paris. J'ai pas besoin d'un summer body. Cœur froid, Rio Dayang. Le Edge et le O, c'est un duo gagnant. Tous les jours s'allume un nouveau voyant. Il me faut la ville à bord de mer à Royan. Fais le on ne le fait pas déjà devant le FK. Je suis concentré sur remplir le sac à dos. Sur la 50, je voulais déjà la crapaud. Il veut m'attraper, il aura pas ma peau. J'ai le cardio, les gambettes. Là c'est beau, je la regarde, elle fait trempette. Ce soir la salle est complète. Okay. Sort en feu de compétition. Ils veulent me signer comme si je suis la pétition.
Personne dans la city en voit plus que moi. Comme Ousmane sur la droite, j'peux te faire avec le gauche ou le droit. J'performe, on dirait Vandamme dans le grand tournoi. Faut plus de gold sur mes doigts et des racks sans surpoids. Chaud, soleil, j'pas réveil, j'moque sur le toit. J'pense bénin dans mes rêves, pas RSA. Eh bien, fuck, RN, charge, Beretta. J'dois garder full sang froid. Pour un coup, tout le temps froid.
puissance de professionnel, je dirais.
Ça, c'est bizarre.
Il est étoile en plus.
Et on accueille maintenant le docteur Xavier Lemercier, qui est le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, les parlementaires y réfléchissent et ils ont recommencé normalement aujourd'hui à réfléchir à ces questions-là de régulation de l'installation des médecins. Déjà, vous, quelle a été votre première réaction lorsque le débat a commencé ?
Alors, si on peut faire un petit parallèle avec la discussion d'après, c'est un serpent de mer, un peu, cette histoire de régulation de l'installation des médecins, puisque déjà dans les années 70 ou 80, il y avait des discussions autour du sujet. Ce qui est sûr, c'est que le ministre de la Santé a déclaré il y a quelques jours qu'on formait actuellement autant de médecins que dans les années 70, ce qui est probablement une réalité. Mais depuis les années 70, la population a augmenté, la population a vieilli. Les capacités de la médecine de prendre en charge des maladies chroniques sur un temps plus long a également augmenté. Donc, en fait, déjà, on voit qu'il y a un effet nombre où, avec autant de praticiens, on aura du mal à offrir une offre de soins équivalente à celle des années 70, puisque les progrès de la médecine ont fait qu'on peut proposer mieux à l'ensemble de nos concitoyens.
Alors, ce qui fait débat, c'est cette question de l'installation, notamment dans les zones où il y a la différence entre des zones surdotées et des zones sous-dotées.
Alors, déjà, cette question en fait, de régulation, elle part sur le principe qu'en effet, il y a des zones surdotées et des zones sous-dotées, ce qui déjà est largement discutable. Pour ça, il y a des indicateurs qui existent, il y a plusieurs types d'indicateurs et qui souvent ont un décalage dans le temps. Les indicateurs qui sont évoqués dans la proposition de loi du député Garot actuellement sont des indicateurs basés sur des activités de médecine générale, en particulier de l'année 2020. Donc, on voit déjà qu'on a un décalage. Si on prend l'exemple dans la Vienne, ces indicateurs nous indiquent par exemple le secteur de Loudun comme un désert médical, ce qui est une réalité, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est vraiment en difficulté et qui pourtant a progressé et s'est amélioré en termes d'offres ces deux dernières années. Et par exemple, des territoires comme Châtellerault ou Poitiers sont considérés comme surdotés, ce qui ne correspond pas malheureusement à la réalité des faits.
Justement, quelle est la réalité dans la Vienne ? On a l'impression que c'est compliqué un peu partout en fait.
Exactement, c'est compliqué d'accéder aux soins, pas parce que l'offre elle est pauvre, mais parce que en fait il y a un effet un petit peu entonnoir. Les médecins généralistes du département ont des patientèles assez élevées en nombre et ont des difficultés à assurer la demande. Et puis, l'accès au second recours, ce qu'on appelle le second recours, c'est-à-dire aller chez le spécialiste, aller à l'hôpital une fois qu'on est orienté par son médecin traitant. Également, là, il y a un phénomène un petit peu d'entonnoir qui rend l'accès plus difficile.
Et alors, donc l'idée c'est de cette loi Garot, c'est de réglementer cette installation. Pour vous, ça risque de ne pas régler le problème de pénurie de médecins dans les zones sous-dotées ?
C'est-à-dire qu'on est dans une situation malheureusement où on va essayer de régler la pénurie avec la pénurie. Donc en fait, si on déplace un médecin pour qu'il aille renforcer un autre territoire, eh bien on déshabille Pierre pour habiller Paul. Ou si on empêche un jeune médecin de s'installer, eh bien on va dire très bien, vous pouvez installer sur tel territoire, mais dans la Vienne, on dirait vous ne pouvez plus vous installer sur Poitiers, sur Châtellerault ou même Montmorillon, qui est également extrêmement en difficulté.
Alors quelles sont pour vous les solutions en fait à ces problématiques ?
Alors, malheureusement, contrairement à cette proposition de loi, il n'y a pas de solution simpliste et il n'y a pas de choses qui vont pouvoir se décréter de manière idéale. Pourtant, on doit tous autour de la table proposer des solutions. Une des premières solutions, c'est de renforcer ce qui existe déjà, c'est-à-dire la prise en charge pluriprofessionnelle. C'est-à-dire, actuellement, le médecin est au centre du système de santé et pourtant, c'est loin d'être le seul acteur. D'autres professionnels comme les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, etc. Ont un rôle extrêmement important. Si on renforce leur complémentarité, leur coordination, eh bien, on sait qu'on arrive à gagner du temps médical et donc à absorber, si je puis utiliser ce terme, plus de patients et plus de prise en charge.
Donc vous êtes favorable au fait que, effectivement, les infirmiers, par exemple, aient plus de droits ou de compétences pour accompagner les patients.
C'est-à-dire qu'en fait, avant de dire plus de compétences, en fait, les infirmiers, par exemple, ont déjà énormément de compétences et énormément d'expérience et une certaine proximité avec les patients qu'ils partagent, par exemple, avec les médecins généralistes. En fait, il faut surtout les aider à se coordonner et à travailler ensemble.
Alors, vous avez appelé à une grève, enfin, au niveau national. Comment elle a été suivie et quel est l'impact de cette mobilisation ? Est-ce que vous pouvez déjà l'évaluer ?
Alors, il y a eu 2 jours de grève en début de semaine dernière. Sur la Vienne, dans l'enquête que nous avions fait, 80% des médecins généralistes étaient déclarés grévistes. Dans ceux qui ont répondu à notre enquête, en tout cas, des cabinets étaient fermés ou d'autres n'assuraient que les urgences. Donc, il y a eu un impact parce qu'on a vu le nombre d'appels au centre 15 augmenter sur ces 2 journées de manière forte. Voilà. Après, les médecins ont aussi un engagement et une responsabilité pour assurer la continuité des soins. Donc souvent, c'était un peu un mode dégradé ou un mode débrayage, mais la continuité a quand même été assurée d'une manière ou d'une autre.
Et alors, cette idée du Premier ministre de proposer aux médecins d'aller quelques jours par mois dans les déserts médicaux, ça vous en pensez quoi ?
On est là sur une proposition qui est déjà plus nuancée que celle du député Garot portée à l'Assemblée. Donc, elle mérite d'être discutée et d'être travaillée. On retombe sur la difficulté de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Actuellement, vous prenez un territoire où, soi-disant, c'est surdoté. Si vous demandez à des médecins d'aller ailleurs, eh ben, ils vont devoir fermer à un moment donné aussi leur accès là où ils sont. Pour autant, il y a sûrement des solutions. Cette solution, elle a pour mérite de faire porter sur l'ensemble de la profession la charge de solidarité vers des territoires, alors que la proposition Garot, elle fait porter uniquement sur la nouvelle génération la charge d'assurer les soins dans ces nouveaux territoires.
Et ce que vous disiez au départ, c'est qu'il y a une pénurie. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut former plus de médecins. Alors, les quotas ont été levés et pourtant, on n'en forme pas plus ?
Alors, si, on en forme plus. Et cette augmentation du numerus qu'on appelait avant clausus et qui maintenant s'appelle numerus apertus, qu'importe. En tout cas, on augmente, mais le temps de formation des médecins est long. Et dans cette société où le progrès de la médecine, on fait que un médecin va avoir des possibilités de carrière extrêmement plus variées qu'avant. On va avoir besoin de lui à plusieurs endroits. Un médecin généraliste peut travailler comme médecin généraliste, comme médecin traitant dans un cabinet, mais peut travailler dans une maison de retraite, peut travailler dans un hôpital, peut travailler comme collaborateur de médecin du travail. En tout cas, il a plein de possibilités et on a besoin de lui un peu partout. Donc, il y a un espèce de tiraillement et, en effet, rendre moins attractif l'exercice, par exemple, de la médecine générale risque d'attirer vers d'autres exercices qui sont tout autant utiles, mais risquent d'avoir un effet plutôt délétère de désertion de l'exercice de la médecine générale.
Et comment on accompagne ces médecins, justement, pour qu'il y ait plus d'attrait pour la médecine générale ou plus d'attrait pour les zones plus, où il y a des déserts médicaux ?
Alors, l'attractivité, finalement, c'est une question qui va au-delà de la médecine. C'est une question d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de territoires où les services publics, l'existence de crèches, d'écoles, etc., c'est délité au fur et à mesure des années. Et donc, les médecins, comme le reste de la population, vont sur des territoires qui sont attractifs et dans lesquels ils vont pouvoir construire leur vie avec leur famille, leurs enfants, etc. Il y a un autre élément, c'est qu'on est sorti du modèle du médecin généraliste qui travaillait avec son épouse, qui faisait son secrétariat. Maintenant, dans les couples, si un est médecin, parfois les deux sont médecins parce qu'on s'est rencontrés pendant des études, c'est pas rare. Mais quand bien même, les deux travaillent. Donc en fait, il faut pouvoir trouver des conditions de vie et d'exercice où les deux vont pouvoir exercer.
Il y a plusieurs élus locaux là, qui se sont mobilisés pour affirmer que cette loi pourrait les aider. On sent bien qu'il y a certains élus dans leur commune où ça devient très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une confrontation entre les médecins et les élus ? Comment on arrive à faire que les gens se rejoignent ?
Nous, notre argument, c'est de dire que... il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on rende plus attractif la profession de médecin généraliste et que finalement, faire croire que décréter de « vous allez vous installer à tel endroit » finalement ne va pas être une solution. C'est pas tant qu'il faut défendre coûte que coûte une liberté d'installation, mais c'est surtout que ça risque de ne pas fonctionner.
Donc, quels sont pour vous, quel est le pas que vous pouvez faire vers ces élus locaux qui demandent des médecins pour leur localité ?
Alors, le pas, il est à faire dans la structuration et l'organisation du système de santé. C'est-à-dire que si la réglementation, elle évolue pour faciliter les exercices collectifs, la coordination, le fait de pouvoir avoir ce qu'on appelle des fonctions support, c'est-à-dire des gens autour qui ont des professions, par exemple comme les assistants médicaux, ce qui existe déjà, mais développer ça pour renforcer l'exercice du médecin et le faciliter dans son exercice, eh bien, on va gagner du temps. temps médical, et donc les conditions d'exercice seront meilleures, plus attractives, et après, quel que soit le territoire, si les conditions sont bonnes, les gens viendront s'installer.
Donc s'il fallait qu'on se projette à long terme, parce qu'on a tendance effectivement à toujours voir à court terme, comment vous voyez l'exercice de la médecine dans 10 ans, dirons-nous, quand ceux qu'on est en train de former vont arriver dans la profession ?
Alors, je ne sais pas ce qu'on voit à 10 ans, parce qu'évidemment, les positions des uns et des autres sont assez larges. En tout cas, il faut arriver aussi à faire comprendre à l'ensemble de la population que le modèle qu'on a connu il y a 25 ou 30 ans, il ne peut plus être celui-là, et que l'accès aux soins qu'on avait il y a 25 ou 30 ans, il ne peut plus être celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il sera moins bon, ça voudra dire qu'il sera différent. Donc, par exemple, la volonté qu'on entend encore chez certains élus d'avoir un médecin dans sa commune, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir un regroupement de professionnels de santé et qu'on sorte peut-être de la notion de médecin traitant pour évoluer vers une équipe traitante. C'est-à-dire qu'il faut garder cette notion de premier recours, de soins primaires en proximité de la population, mais où les patients diront, ben moi, l'équipe qui me prend en charge, c'est cette équipe-là et pas uniquement ce médecin-là. Et à l'intérieur de cette équipe, évidemment, il pourrait y avoir un médecin, un peu comme un chef d'orchestre ou un coordinateur autour de professionnels de santé qui travailleront en groupe. Et si on a cette vision plus collective de l'approche du soin, d'abord, on sera plus efficace. Parce qu'en en fait, à plusieurs, on est souvent plus fort quand même pour accompagner les gens. Et puis, en plus, on va pouvoir aller plus loin dans l'offre de soins.
En tout cas, là, est-ce que par rapport aux débats qui sont en cours, est-ce que vous allez proposer d'autres actions des médecins dans la Vienne ou au niveau national ?
Alors, on va voir, puisque là, la réaction, elle a été à l'adoption de ce premier article de ce projet de loi. Les autres articles rentrent en discussion demain avec un certain nombre d'amendements qui ont été proposés par les élus. Ensuite, il y a la navette parlementaire, il va y avoir le Sénat qui va pouvoir également amender le texte et le texte va revenir. On table beaucoup sur le travail de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et l'équivalent au Sénat, qui est le travail plutôt de fond sur l'impact d'un texte comme celui-là. En tout cas, c'est un travail qu'on fait aussi avec les parlementaires en dehors de l'hémicycle et de l'aspect médiatique du sujet.
Merci beaucoup, docteur Xavier Lemercier. Donc, vous êtes président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Vienne. Merci d'être venu réagir à cette proposition de loi.
Je vous remercie.
Demain, dans Séquence Midi, on accueillera Aloïse Gabory, qui est conseiller municipal délégué à l'urbanisme et au foncier à la ville de Poitiers, et qui parlera de la sensibilisation à la transition écologique pour les acteurs sportifs du territoire et qui ont participé à pas mal d'ateliers participatifs pour élaborer tous ensemble une feuille de route. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Et il est présenté par Rachel.
Bonjour à toutes et à tous, voici ma sélection d'événements à faire aujourd'hui à Poitiers ou ses alentours. Tout d'abord, retrouvez la conférence Mardi de l'Europe. Europe Direct et l'université Interage organisent une conférence, le Parlement européen, un an après les élections européennes, en présence d'Isabelle Coustet, chef du bureau du Parlement européen, qui apportera son éclairage sur les enjeux et les évolutions de cette nouvelle législative. Ça se déroule à 14h30 à l'INSPE, le bâtiment B20, sur le campus de l'université de Poitiers. Puis, direction le confort moderne avec le concert Tapas Nocturne, Olivier Benoît et François Robin. Est-ce qu'on déguste un fromage comme on écoute un solo de guitare improvisé ? C'est la question à laquelle François Robin, fromager et Olivier Benoît, guitariste, tenteront de répondre ou pas. Impossible de prédire vraiment le déroulé de cette soirée, mais il sera question de fermentation, de silence et de dégustation. C'est sur réservation et ça commence à 19h. Puis venez découvrir à Chauvigny la conférence Raconter l'histoire en bulle avec Didier Kellaguillot. Il évoquera son travail d'auteur de BD historique, ses collaborations, son travail avec ses dessinateurs et coloristes, ainsi que le parcours et le lien qu'il a avec les maisons d'édition. Elle a lieu à partir de 18h30 à la médiathèque de la Tercée. Et enfin, retour à Poitiers où se déroule au Dietrich la séance du film « Tu ne mentiras point » de Tim Mielon. Irlande, 1985, modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill tâche de maintenir à flot son entreprise et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, lors d'une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret sera longtemps dissimulé et va le confronter à son passé et au silence complice d'une communauté vivant dans la peur. Le film commence à 19h.
Merci beaucoup Rachel, et toi on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin qui a repris donc cette semaine sur Pulsar à 18h, c'est à l'Asso, votre émission consacrée aux associations locales présentée par La Fève. À 19h c'est Slam à tout va, c'est de l'impro, de la poésie et du slam bien sûr. 20h Pétale de Sakura pour un voyage en Asie. 21h c'est Culture Dub, Roots, Reggae, Digital Dub, Stepa, Electro Dub au programme. Et à 23h c'est Novorama. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. Si vous voulez de la musique en live, on a un DJ qui est installé au conteneur Rabelais. C'est donc aux rues Rabelais sur le campus. N'hésitez pas à aller la voir, c'est Ludmilla. Bon après-midi en musique, à demain.
Oh, regardez! Pulsar.